Le Bray Zizel.
La petite touche pour Adnan dans la surface de réparation.
Oui, Youssef! Oui, Youssef! L'ouverture du score! Crochet le but!
2-0 pour Brest!
Ici, c'est Brest. Bonsoir Thomas Lavaux.
Bonsoir Thomas.
Bonsoir messieurs, dames. Grosse actu, hein. Ce soir, on va revenir sur une semaine où le Stade Brestois a perdu gros. Plus de Coupe de France après l'humiliation à Saint-Brieuc. CFA 2 samedi, une défaite 2-0 avec un score atteint à la demi-heure de jeu. Et puis ces déclarations d'Yvon Kermarec dans la presse de ce matin. Il pourrait quitter la présidence du club. Ça, ce n'est pas une surprise, mais il pourrait le faire avant même la fin de cette saison. Alors la saison brestoise est-elle déjà un petit peu terminée? Comment vous accueillez ces paroles d'Yvon Kermarec? Ce sera notre premier débat avec vos participations au 02 98 53 65 65. L'invité de cette Ici c'est Brest, c'est l'entraîneur adjoint du Stade Brestois, Éric Guichard, parce qu'il y a un match de championnat vendredi également à disputer. Brest joue à Annecy contre Evian Thonon-Gaillard. Ce sera déjà la 18e journée. On est déjà presque à mi-saison. On verra comment remobiliser l'effectif dans ces moments compliqués. On s'intéressera également à l'ETG, seulement 12e alors que le club descend de Ligue 1. Nicolas Perronnet de France Bleu Pays de Savoie et nous évoquera cette autre déception de la saison et la manière dont elle joue. On a parfois du mal à s'y retrouver. Le dernier espoir finistérien en Coupe de France, c'est Concarneau. 3e, 32e de finale de suite pour les Thoniers qui ont éliminé Châteaubriant 2-0 samedi soir. Ils connaîtront leur adversaire dans une heure et demie environ. Ce ne sera pas Guingamp, ce ne sera pas Rennes, mais ça pourrait être l'Olympique de Marseille, pas mal. Christophe Marchand du site internet newswest.fr évoquera la qualification. Et le deuxième but signé Herman Coré à la Paul-Georges Entep qui est en train de buzzer gentiment sur internet. Et puis on terminera avec ce projet qui mettra à l'honneur les meilleurs footballeurs amateurs du district Finistère Nord, les Amateuriales, une sorte de All-Star Game qui servira aussi à recueillir des fonds pour une bonne œuvre. Trois des instigateurs de ce projet nous rejoindront en fin d'émission. Comme d'habitude, des places pour le prochain match du Stade Brestois à Le Blé en Arkéa à gagner. Ce sera face à Clermont. Voici le menu d'ici à 19h. Je vous rappelle le numéro pour intervenir, 02 98 53 65 65.
Ici, c'est Brest. Thomas Lavaux.
Alors normalement à cette heure-ci, vous retrouvez le best-of du dernier match, mais comme Orange à Saint-Brieuc nous a oublié malheureusement cette semaine, pas de best-of. C'est la raison également pour laquelle vous n'avez pas pu suivre le match du Stade Brestois samedi à Saint-Brieuc et nous nous en excusons. Nos invités ce soir, Pierre Lézières du journal Ouest France. Salut Pierre.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Et Éric Guichard, donc l'entraîneur adjoint du Stade Brestois. Bonsoir Éric.
Bonsoir.
Parlez bien dans le bleu Éric.
Oui.
Voilà, c'est parfait. On va commencer par évoquer les propos d'Yvon Kermarec, le président du Stade Brestois, dans la presse de ce matin. On l'a invité à s'exprimer ici même, Yvon Kermarec. Il a décliné. Alors on savait qu'Yvon Kermarec était partant en fin de saison. Il se donnait 3 saisons au moment de sa reprise. Il arrive au bout de la 3e. Et ce matin, dans le Télégramme et dans Ouest France, Yvon Kermarec déclare qu'il pourrait céder la tête du club plus tôt que prévu dans les premières semaines de 2016. Et ceci afin que son successeur prépare la saison prochaine. Alors, est-ce que c'est une bonne chose d'anticiper? Ou est-ce que ça ne veut quand même pas dire que finalement, faut plus rien attendre de cette saison? Comment est-ce qu'on peut voir les choses, Pierre, de Ouest France?
Déjà, je pense que c'est une réaction à chaud après de mauvais résultats de rang.
Parce qu'il y avait eu Laval également avant Saint-Brieuc. Ouais.
Et puis après, ce Stade Brestois de la poule allée est très inconstant. Donc il y a peut-être un petit ras-le-bol aussi du président Kermarec.
Alors on l'a vu quitter le Stade Fred Aubert de Saint-Brieuc avant la fin de la rencontre samedi.
Ouais. Ouais, qui n'a pas dû forcément apprécier la prestation de ses salariés. Et il y a le recrutement aussi qui n'a pas trop porté ses fruits. Donc il y a peut-être un peu de lassitude chez le président Yvon Kermarec.
Ouais, donc ça joue sans doute. Reste que même s'il n'y a plus de Coupe de France, même s'il n'y a plus de Coupe de la Ligue, il reste encore une demi-saison, un petit peu plus, une demi-saison plus de matchs à disputer encore. Mais est-ce que c'est pas une phase d'incertitude qui s'ouvre? Et cette phase d'incertitude, Éric Guichard, quand on est membre du staff, comment est-ce qu'on la vit?
Alors aujourd'hui, il est clair que nous, on est tout de suite tourné vers le futur, c'est-à-dire notre prochain match. Après, Yvon Kermarec semble effectivement dans une certaine lassitude de sa fonction. Voilà, nous, on est vraiment cantonné et tourné exclusivement vers le sportif et comment amener les garçons à être performants le week-end prochain et puis effacer voilà, ces deux derniers résultats qui ont été très décevants.
On a quand même l'impression que le sort d'Yvan Kermarec est lié aussi à celui d'Alex Dupont. C'est Yvan Kermarec qui a fait revenir Alex Dupont, qui a toujours défendu également Alex Dupont. Avoir la tête vraiment au quotidien, au terrain, au match, dans ces conditions-là, est-ce que c'est évident?
Ouais, je pense qu'Alex fera la part des choses. Et, moi, je l'ai eu au téléphone justement après le match de Saint-Brieuc. Et voilà, on est encore une fois dans le travail et résolument tourné vers l'avenir et ce match de l'ETG.
Et ce sera vendredi soir à partir de 20h. Alors, Yvan Kermarec, il compte 51% des parts de la structure professionnelle. Ça veut dire qu'il faut aussi trouver un repreneur. Il faut que ce soit validé en conseil d'administration. On parle beaucoup de Denis Lecin, qui un des co-actionnaires du Brest-Bretagne Handball, également membre par ailleurs du conseil d'administration du stade brestois. Donc tout ça, ça peut prendre encore, ça peut durer encore, ça peut s'inscrire dans la durée, Pierre.
Oui, tout à fait. Et puis même si Yvan Kermarec veut lâcher la présidence, mettons au mois de janvier ou de février, il faut que le futur repreneur soit aussi d'accord de la prendre à ce moment-là. Et il y a un long processus avant de... Enfin, ça, on lâche pas une présidence comme ça. Donc je pense que pour l'instant, il a parlé à chaud. Et on verra quand il la lâchera. Ce qui est sûr, c'est qu'il la lâchera au plus tard en mai. Mais aujourd'hui, on ne sait pas, entre janvier et mai.
En tout cas, Yvan Kermarec devrait normalement préciser sous peu un petit peu plus ses pensées. Donc voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce point-là. On va désormais se reconcentrer un petit peu plus sur le sportif. Ce sera juste après la première pause dans cette Ici c'est Brest. On parlera bien sûr de l'élimination en Coupe de France. On évoquera votre rôle, Éric Guichard, en tant qu'entraîneur adjoint. Et puis on parlera bien sûr du match qui nous attend vendredi soir pour la 18e journée à Annecy face à Yvetot Gaillard.
France Bleu.
Mamie, papy est encore sur l'ordinateur.
Oh, je sais, mon chéri, patiente 5 secondes. Tu le connais, il est dans son espace personnel.
Hein?
Sur le site de l'assurance retraite, il télécharge son attestation de paiement.
Ah bah si même papy se met à télécharger...
Vous aussi, créez votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr et découvrez des services personnalisés pour vous simplifier la vie. Pour ma retraite, je clique, c'est plus pratique.
C'était un message de l'assurance retraite, votre retraite de la sécurité sociale.
Salut, c'est Bruno Solo. Il y a 50 ans, l'Innoventura lançait un appel pour alerter l'opinion sur la question du handicap mental. Il créait alors l'association Personnage pour aider et accompagner les personnes pas comme les autres et leurs familles, mais aussi pour lutter contre les préjugés. Aujourd'hui, à l'occasion des 50 ans de Personnage, nous vous invitons à votre tour à soutenir l'association et à continuer le combat initié par l'Innoventura. Soutenez Personnage. Soyons tous avec l'Inno. Retrouvez-nous sur personnage.org. Merci.
The Voice en France Musique. Une journée avec Frank Sinatra, samedi 12 décembre, à l'occasion du centenaire de sa naissance. De 9h à minuit, archives, témoignages, concerts inédits, hommages en direct par de nombreux artistes. À suivre samedi sur France Musique et sur francemusique.fr. France Musique, une radio de Radio France.
L'hiver, la consommation d'électricité grimpe en flèche en Bretagne. Alors toi, l'ampoule, tu devrais la mettre en veilleuse, non?
Dis donc, la machine à laver, c'est à toi d'arrêter de tourner, tambour bâton.
T'es vraiment à des années-lumière des kW, l'ampoule.
Quoi?
En hiver, le matin est de 18 à 20 heures. Nous devons tous faire une pause pour éviter les risques de coupure d'électricité.
Retrouvez tous les éco-gestes sur le site EcoWatt Bretagne. Campagne de prévention initiée par RTE, en partenariat avec l'État, la Région Bretagne, ERDF et l'ADEME.
France Bleu Brézizel, supporter du stade brestois.
À 18h22, on est ensemble jusqu'à 19h, toujours en compagnie de Pierre Lézière de Ouest France et d'Éric Guichard, l'entraîneur adjoint du stade brestois. On va revenir sur ce 8e tour de Coupe de France samedi au stade Fred Aubert et le stade brestois qui est tombé, qui s'est incliné 2-0 face à une équipe qui joue en CFA2 et habituellement dans la poule de la réserve du stade brestois. Brest, en fait, n'a pas été au rendez-vous, Pierre, tout simplement.
Ouais, c'est tout simplement ça, des joueurs absents, en fait. C'est surprenant, d'ailleurs. Parce qu'au final, il y a juste cette occasion de Cuvillier à la quatrième.
Il tire trop fort, ça, il tire au-dessus, alors que peut-être avec un petit peu moins de puissance, il aurait pu accrocher le cadre.
Ouais, c'est ça. Et là, on se dit, avant qu'il frappe, on se dit, ouais, ça fait 1-0 et ça peut dérouler. Et au final, non, la balle, elle part au-dessus, manque de justesse technique. Et les Briochins mettent un but tout de suite après. On les a vus, ils avaient du cœur, ils étaient très motivés. et ils méritent cette qualification parce que les Brestois, vu le niveau de jeu proposé, ne pouvaient pas arriver mieux, tout simplement.
À Saint-Brieuc, c'est une équipe très solide en défense. On en parlait ici même il y a une semaine en CFA2, qui encaisse très très peu de buts, qui en marque très peu aussi, mais c'est vrai que porté également par leurs presque 5000 spectateurs, ils ont su mettre de la justesse, de la vitesse également dans les contres, et ça leur a permis d'assurer ce score très tôt dans la rencontre, et puis ensuite de gérer notamment en deuxième mi-temps sur des contres qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Mais Éric Guichard, en Coupe de France, généralement, quand un grand comme le Stade Brestois affronte un petit comme une CFA2, la clé généralement c'est dans l'intensité. Si on donne autant que l'adversaire, normalement après la différence de niveau doit permettre de faire la différence, ou c'est plus complexe que ça?
Je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Voilà, les matchs de Coupe de France sont toujours des matchs compliqués à aborder, à la fois pour le staff et à la fois pour les joueurs. L'aborder parce que effectivement, faut les mettre dans une dynamique de victoire, leur rappeler que pas passer en Coupe de France contre une CFA2, ce serait anormal. Donc leur mettre une certaine pression, tout en sachant aussi que de temps en temps, on a besoin de faire tourner aussi un petit peu notre effectif pour laisser reposer un certain nombre de garçons. Donc voilà, les aborder, ces matchs de coupe, c'est toujours très compliqué. Moi, j'étais de l'autre côté. Hein. Alors, l'aborder quand on est une équipe de CFA2 contre une équipe de Ligue 2, c'est toujours plus facile. Hein. Moi, les matchs de Coupe de France, j'en ai gagné contre des équipes.
Vous avez entraîné notamment Lyon-la-Duchère, Saint-Priest.
Par exemple. Et donc, ces matchs-là sont toujours beaucoup plus faciles. Et puis, dans l'esprit des garçons, c'est toujours plus facile de les aborder aussi. Alors, effectivement, j'ai lu dans la presse faute professionnelle. C'est un accident.
C'était une des paroles de Simon Fallette après la rencontre.
C'est un accident dommageable. Après ce genre de résultat, il y a toujours un traumatisme. Hein. Il va falloir y faire face, nous, le staff et les joueurs, justement pour derrière réussir à renverser la vapeur. Nous, on est une équipe fragile hein, depuis le début de la saison. Chaque fois qu'on encaisse un but, on n'est jamais revenu. Mmh. Voilà, c'est toujours des matchs qu'on a perdus.
Et c'est ce qui explique notamment cette absence de régularité dans les résultats.
Oui, c'est toutes nos insuffisances aujourd'hui. À chaque fois qu'on a eu des résultats, un ou deux résultats intéressants, on se permettait de se dire, bah tiens, allez, on a trouvé notre effectif, on a trouvé notre système, on a trouvé nos joueurs, et puis patatrac, derrière, on se prenait un gadin et il fallait tout recommencer. Et là, encore une fois, on va tout recommencer, donc on va se remettre à travailler dès demain et bien préparer le match de Thonon et puis essayer de trouver les solutions pour optimiser les performances des garçons qui sont, à mon goût, insuffisantes sur ce week-end-là, mais qui, à mon sens aussi, qui peuvent être bien meilleurs.
Pierre, en fait, ça rejoint un petit peu aussi ce que nous disait Simon Fallette, aussi bien après Laval mardi dernier que Saint-Brieuc samedi, que tous les joueurs n'avaient peut-être pas le même état d'esprit, et Simon Fallette, on l'a senti à nouveau assez en colère, tout comme Bruno Grougy d'ailleurs après le match de Saint-Brieuc.
Ouais, c'est sûr que les deux étaient pas forcément contents du niveau global de l'équipe et de l'investissement de tous les joueurs. Après, c'est vrai qu'on voit des joueurs qui marquent le pas depuis ces derniers temps. Il y a Joseph Moros qu'on voit pas beaucoup. Il y a Kevin Koubemba qui pèse pas sur les défenses. Qui perd beaucoup de ballons. Éric Thiéby qui a beaucoup, beaucoup de mal en ce moment au milieu de terrain.
En très grosse difficulté samedi soir.
Ouais. Après, ce qu'il faut noter aussi, c'est l'absence de Gaëtan Belot et de Baïssa Massanko qui font beaucoup, beaucoup de mal. Là, on a vu Alex Dupont qui a titularisé les jeunes Rano et Garga Denek, qui malheureusement pour eux, c'était très, très compliqué de rentrer dans un match comme ça. Les pauvres, ils sont sortis à la mi-temps.
Ibrahima Sissoko également au milieu de terrain. Alors justement, puisqu'on parlait de Garga Denek, de Sissoko, de Jason Rano, ces joueurs qui... c'était les premières apparitions en match officiel pour Garga Denek et pour Sissoko. Rano, on le voit très très rarement. Comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on leur parle justement après ces rencontres où ils sont sortis à la mi-temps? Comment est-ce qu'il faut parler à ces joueurs, Eric?
Forcément, il faudra leur dire un mot, quoi. Ne serait-ce que pour leur expliquer que ce n'est qu'une péripétie dans une carrière qui doit s'annoncer très longue. Donc voilà, ils doivent rapidement tourner la page et eux aussi se refaire une santé à la fois physique et psychologique pour derrière vraiment entamer leur carrière en professionnel. Voilà, c'est un accident de parcours. Je pense que c'était un match piège pour le Stade Brestois et ça l'était encore un peu plus pour eux. Ils doivent franchir ce cap-là. Je parlais de traumatisme tout à l'heure. Faut pas que ça en devienne un pour eux. Voilà, c'est une péripétie de carrière. Et ils en connaîtront d'autres parce que les carrières sont faites de haut et de bas et on gagne pas tous les week-ends.
Surtout que voilà, Ibrahima Sissoko, international U18, U19.
La qualité est là. Voilà. Et, encore une fois, tournez la page. On se rappelle que ça existe, hein, parce que l'inexpérience en Coupe de France est aussi, c'est aussi pénalisant, hein, savoir qu'on peut être sorti par une équipe de CFA2 quand on arrive dans un effectif professionnel, on s'en rend peut-être pas compte. Mmh. Voilà, on se dit quand on voit ça à la télé, on se dit ah mais c'est pas possible, et si c'est possible, ça peut se faire. Donc ça fait partie maintenant de leur bagage, malheureusement pour nous.
Et avec les joueurs qui, eux, ont davantage de temps de jeu en championnat, les titulaires que l'on a retrouvés également samedi, les Simon Fallette, les Steven Joseph Monroz, Kevin Kubemba, Christian Batocchio également, comment est-ce qu'on aborde ça avec eux? Est-ce qu'il faut revenir sur la rencontre, détailler ce qui n'a pas été, ou est-ce que, comme c'est une sorte de traumatisme, faut évacuer et essayer de passer à autre chose?
Non, je crois qu'il s'est passé des choses, mais il ne s'est pas passé des choses simplement samedi à Saint-Brieuc, hein, il s'en est passé aussi mardi à Laval. Il y a eu des performances qui sont insuffisantes, donc il y a des enseignements à tirer de tout ça. Nous, on a fait un retour vidéo sur le match de Laval, on a essayé de mettre le doigt sur quelques insuffisances, collectives, individuelles. Donc voilà, il faut se servir de tout ça pour relancer une nouvelle dynamique. Cela étant, au-delà de ça, il y a des performances qui sont attendues de la part des joueurs et elles doivent être au niveau celle d'un professionnel qui joue à la fois à Saint-Brieuc et qui joue à Laval. Et voilà, il faut être bon tout le temps, il faut savoir se remettre aussi en cause, eux et puis peut-être nous aussi, le staff, dans notre façon d'aborder les matchs.
Presque 18h30 sur France Bleu, Brice Hizel, le prochain match justement, ce sera à partir de vendredi à 20h et ce sera à Annecy face à Evian Thonon-Gaillard. On parle d'Evian Thonon-Gaillard dans quelques petites secondes, juste le temps de jouer. Comme d'habitude, hein, dans cette émission, on vous offre des places pour le prochain match du Stade Brestois. 2 places en tribune Arkéa pour aller voir Brest-Clermont, 19e et dernière journée de la phase aller. La saison dernière, Clermont, c'était le premier match de la saison. Là, c'est le dernier match de la phase aller. Question pour gagner ces 2 places mises en jeu. Comment s'appelle l'entraîneur de Clermont, qui d'ailleurs avait célébré son premier match officiel la saison dernière à Francis Leblé? Est-ce que c'est Marinette Pichon? Est-ce que c'est Corinne Diacre? Est-ce que c'est Sandrine Soubéran? Vous pouvez appeler au 02 98 53 65 65.
On joue ensemble au 02 98 53 65 65.
18h30 sur France Bleu, Brice Hizel, toujours en compagnie de Pierre Lézière d'Ouest France et en compagnie d'Éric Guichard, l'entraîneur adjoint du Stade Brestois. On va parler donc de ce prochain match face à Evian Thonon-Gaillard. Je ne sais pas si on est en ligne avec Nicolas Perronnet de France Bleu Savoie. Est-ce qu'il nous entend, Nicolas Perronnet, ou est-ce qu'il nous rejoindra un petit peu plus tard? Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
En direct des studios de France Bleu, Pays de Savoie. Donc vendredi, 18e et avant-dernière journée de la phase aller. Deuxième déplacement consécutif pour Brest en Ligue 2. Troisième en comptant la Coupe de France. Et le Stade Brestois qui va donc aller affronter l'Evian Thonon-Gaillard qui est seulement 12e. Passé de la 5e à la 12e place en l'espace de 6 matchs. On a l'impression qu'Evian Thonon-Gaillard patine, Nicolas.
Oui, c'est un petit peu finalement l'histoire, hein, de l'OTG cette saison, être en mesure d'aller titiller le podium, alors pas grimper dessus mais d'aller le titiller, puis quand il semble là, quand on a l'impression qu'il y a un certain rythme de croisière, on va dire, qui s'est installé, il y a cette difficulté à passer le cap en fait depuis une 5e place, hein, après la 11e journée, qui est le meilleur classement de la saison pour l'OTG. C'était après une victoire sur la pelouse du leader Dijon, on pensait qu'enfin le rythme de croisière était trouvé, puis l'OTG est retombé un petit peu dans ses travers avec une vraie difficulté à enchaîner, défaite face à Créteil, défaite face à Tours et puis une défaite surtout qui a fait très mal, c'était à Sochaux, parce que ça a rappelé des souvenirs évidemment de Ligue 1, hein, ce fameux match du maintien, c'était il y a 2 saisons. Alors pourquoi ça patine? Sans doute parce que l'entraîneur Safet Susic, hein, reste, quoi qu'il arrive, que ce soit à domicile, à l'extérieur, quel que soit l'adversaire, finalement il insiste avec un système de jeu très offensif. Je dirais qu'il a de plus en plus de mal finalement à s'adapter à l'adversaire. Puis il y a des absents aussi, justement dans le secteur offensif, hein, l'absence prolongée de Clark Nsekulu qui est compliqué à gérer. Pour ce qui est de Gianni Bruno, exactement, il s'est blessé très rapidement. Et pour ce qui est de Gianni Bruno, qui est donc l'attaquant de pointe, hein, en chef, on va dire, même s'il a 2-3 fulgurances, il y a quand même un vrai problème et ça fait un moment que ça dure du côté de la Haute-Savoie avec l'attaquant belge.
Voilà, c'est un petit peu yo-yo et ça donne effectivement. Saison dernière.
Ouais, ça donne effectivement 4 points, hein, c'est ça, sur les 6 derniers matchs.
Pierre Lézière d'Ouest France, une équipe comme ça qui se rapproche du podium et qui n'arrive pas à monter dessus. Ça nous rappelle une équipe bretonne en Ligue 2, par exemple.
Voilà, c'est ça, avec Brest. Et d'ailleurs, vendredi, je pense qu'il y aura une grosse réaction d'orgueil attendue des Brestois après de mauvais résultats. Donc, Evian a l'air d'être une bête blessée, donc c'est la proie idéale. Après, les Evianais auront également ce sentiment, donc ça va. Ça risque de faire un 0-0, peut-être.
Éric Guichard, on a l'impression d'une équipe dont on a du mal à savoir vraiment comment elle joue, quel style. Elle a utilisé 23 joueurs cette saison. Cette équipe d'Evian Thonon Gaillard, c'est dans la norme, hein, de la Ligue 2. C'est à peu près comme le Stade Brestois. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont 10 matchs, 11 matchs. On a une impression de turnover, pas mal.
Oui, c'est une équipe assez offensive, avec un système qui change parfois. Ils ont encore changé de système à Lyon-la-Duchère.
En
Coupe de France,
ils sont passés,
voilà, où ils sont passés difficilement.
C'est votre cœur de Duchérois, comment on dit.
De Duchérois, c'est ça.
C'était totalement au hasard. Hein.
J'ai eu quelques infos, donc voilà, ça n'a pas été si facile que ça. Bon, ils sont passés, c'est encore une fois l'essentiel. Donc c'est une équipe qui a changé assez régulièrement, effectivement, de joueurs, d'organisation. Quand l'organisation reste la même, c'est les joueurs qui changent. Donc elle n'est pas facile à appréhender et à lire.
Petite parenthèse avant de revenir sur cette équipe d'Evian Thonon Gaillard, on accueille Bruno au Standard de France Bleu Breizh Izel. Bruno, bonsoir.
Oui, bonsoir à vous.
Félicitations, vous avez remporté les deux places mises en jeu pour aller assister à Brest-Clermont. Ce ne sera pas vendredi là, mais vendredi la semaine prochaine. Je vous demandais le nom de l'entraîneur de Clermont. Ouais, je suis désolé, je n'ai pas trouvé plus original comme question avec Clermont. Comment s'appelle-t-elle? Corinne Diacre. Voilà, vous venez de le dire. Supporter du Stade Brestois, Bruno?
Pour être franc, plutôt de l'en avant de Guingamp, parce que je suis natif des Côtes d'Armor et on vient d'arriver sur Brest. Donc je ne suis pas encore allé au stade, pour être franc avec vous, mais pourquoi pas, arriver aller voir le Stade Brestois, oui.
Mais ça va vous changer.
Ah oui, merci exactement, beaucoup. Mais je suivais le Stade Brestois quand j'étais plus jeune, j'étais assez fervent du Stade Brestois du temps de l'époque de Drago Vabeck et compagnie.
Meilleure.
Quand j'étais à l'armée sur Châtelain, on venait voir tous ces matchs-là.
Et Drago Vabeck, effectivement, je comprends que ça vous ait marqué. Bruno de Brest, merci beaucoup.
Et puis il y avait une ambiance du tonnerre, je me rappelle que le public était vraiment formidable au Stade Brestois.
Sans mauvais jeu de mots, le tonnerre, bien sûr. Bonne soirée, Bruno, à très bientôt.
Ouais, merci à vous également, merci beaucoup, bonne soirée.
Bonne soirée et félicitations pour avoir donné la bonne réponse à Laurence au Standard de France Bleu Breizh Izel. À 18h35, on va faire un dernier petit détour par la Savoie. Il me reste deux questions à poser à Nicolas Perronnet de France Bleu Savoie. Nicolas, pourtant, quand on regarde les stats d'Evian Thonon Gaillard, 4e attaque, 6e défense et une différence de but de plus 7, qui est quand même pas mal du tout. Ouais. Et malgré tout, un classement très moyen.
Ouais, alors il y a pas de crise, hein, très franchement. Le TG, finalement, fait sa saison. C'est juste peut-être que Safet Susic a peut-être parlé un petit peu vite. Alors il est arrivé tard déjà, il a pris en main l'équipe au mois de juillet. On lui avait promis quand même de grandes choses, un effectif qui bougerait pas trop, un objectif remonté dès cette première saison, et puis il s'est retrouvé finalement avec une équipe qui a été remodelée à 80%, beaucoup de joueurs en prêt, beaucoup de Sud-Américains. Alors il y a des réussites, hein, Gustavo Campagnaro qui devrait jouer vendredi soir en étune, le Brésilien, mais il y a aussi des échecs. C'est vrai que c'est une équipe qui prend assez peu de buts pour revenir au stade. Le gardien Benjamin Leroy fait partie des rescapés de Ligue 1 et il est en Ligue 2, je pense, encore un peu au-dessus du lot. La défense, elle est relativement solide, mais il y a cette difficulté à faire la différence dans le secteur offensif, même si Susic, hein, et vous l'avez dit, est un véritable partisan d'un football offensif. Clairement, il manque aujourd'hui un tueur devant dans cette équipe de l'ETG, un vrai neuf pour espérer voir un peu plus haut.
La dernière question, Nicolas, pour conclure. La Haute-Savoie, on est mi-décembre. Soit c'est le paradis, soit il y a 15 cm de neige et c'est l'enfer, notamment pour le déplacement. Quelle météo on annonce ?
A priori, vous pourrez garder les moufles à la maison, hein, Thomas. Ça devrait aller. Alors bon, vous prenez quand même une petite veste, hein, venez pas en t-shirt parce que c'est la Haute-Savoie malgré tout. Mais non, ça devrait aller. Et puis alors, il y a quelque chose d'assez surprenant du côté du Parc des Sports d'Annecy, c'est que c'est une des plus belles pelouses de Ligue 2. C'était déjà le cas en Ligue 1. C'est vrai que les services de la ville font assez fort parce que c'est compliqué, ça gèle assez souvent. De la neige, pas encore, mais ça peut arriver. Mais a priori, ça devrait aller pour vendredi soir. Et surtout, cette pelouse, généralement, elle est plutôt appréciée par les équipes adverses.
Si seulement le stade pouvait être du niveau de la pelouse. Merci beaucoup.
Pas grand monde, en tout cas, au stade.
Nicolas Perronnet de France Bleu, Pays de Savoie. Bonne soirée, à très bientôt.
Kenavo.
Et merci également à Eric Guichard qui était ce soir notre invité dans Ici c'est Brest. Merci beaucoup Eric.
Merci à toi, merci à vous.
Et donc rendez-vous vendredi à partir de 19h30 pour suivre cette rencontre entre Evian Thonon-Gaillard et le Stade Brestois. Et coup d'envoi à partir de 20h bien sûr. Et puis merci beaucoup également à Pierre Lézière d'Ouest France qui était en notre compagnie.
Merci à toi, merci à tous.
18h39 dans quelques petites secondes, on va faire une petite pause musicale et juste ensuite on parlera de l'US Concarnoise.
Combien de navires ont pris l'eau avant de toucher le rivage? Combien de soupirs de sanglots avant de guérir nos visages? L'adversité écorche nos rêves, qui trace nos parcours, notre histoire. Et pour qu'un nouveau jour se lève, partir avant qu'il soit trop tard, promis juré. Tout ira mieux demain.
Promis juré, c'était Lilian Renaud sur France Bleu Braise Isel.
Ici, c'est Brest.
Les dernières chances finistériennes en Coupe de France seront donc défendues par l'US Concarnoise qui a éliminé Châteaubriant samedi en gagnant 2-0 grâce à des buts de Jégousse et d'Herman Coré. D'ailleurs, on va reparler de ce deuxième but. Christophe Marchand du site internet newswest.fr est avec nous. Salut Christophe.
Oui, salut Thomas. Et puis bonsoir à tous les auditeurs de France Bleu Braise Isel.
Et bonsoir également à Richard Lebars d'allerslettonniers.fr. Bonsoir Richard.
Bonsoir Thomas, bonsoir Christophe.
Salut Richard.
Bon Christophe, cette qualification des Lettoniers 2-0 face à Concarneau, elle a quand même été assez tardive à arriver. Le premier but est intervenu à la 71e, le second dans les arrêts de jeu. Il n'y a pas eu forcément la maîtrise, mais de toute façon, ce qu'on demande à ce stade de la compétition, c'est de gagner. Hein.
Oui, exactement. Et puis, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est aussi la troisième qualification du club de l'USC en 32e de finale de la Coupe de France. Troisième consécutive, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Après, pour revenir sur le match, pas forcément un grand match. En première mi-temps, très peu d'occasions des deux côtés. Ça pouvait tourner en faveur de Chateaubriand. Ils ont notamment un but refusé juste avant la pause, qui pouvait être valable. Il y a eu une sortie difficile de Ivan Cesnec, le gardien concarnois. Après, voilà, c'est la coupe. Ils ont vraiment réussi une bonne deuxième période. Et je pense que le changement tactique effectué à l'heure de jeu avec la rentrée de Maëlien en lieu et place de Mustapha Ndoye à l'heure de jeu a vraiment densifié le milieu de terrain. Et là, ils ont vraiment pris l'ascendant. Et bon, après, la chance a tourné du bon côté.
Richard d'Alletonnier.fr, est-ce que tu n'as pas eu quand même un petit peu d'appréhension? Est-ce que tu t'es pas dit, ah ben là, cette année, ça va peut-être jouer contre les Tonniers?
Ouais, bon, de toute façon, on savait très bien que Chateaubriand, vu la prestation du match de championnat, que ça allait pas être de la tarte. Mais
ils avaient fait match nul, ça avait été les premiers à accrocher Chateaubriand,
là. Hein, ils sont restés sur leur base. Bon, c'est vrai qu'ils ont un but ou deux refusés, mais moi je suis bien placé sur le premier et bien une charge, je suis Yvan quand même. Donc et mon fiston est bien placé sur le deuxième. Il y a hors jeu. Donc voilà, point. Mais on a bon, pour dire, c'était pas facile, hein, mais bon, j'ai pas trop reconnu le milieu de Chateaubriand non plus. Oubinet avait été excellent la dernière fois, mais là je pense que le trio Gégos, Drogazé, Attilien a été excellent à leur tour.
Alors, on a beaucoup parlé de la première période, de ce but refusé, à tort ou à raison, hein, on a compris, à ce but de Chateaubriand, et puis est intervenue la 94e minute, et je vous propose de la revivre telle que vous l'avez vécue sur France Bleu Braise Izel.
Mon intervention de Guillaume Gégous qui s'arrache, et le but est vide, Herman Coré qui va vers le but, le retour de Grégory Edouard, Herman Coré qui va marquer le deuxième but, Herman Coré qui envoie Concarneau en 32e de finale, il arrête le ballon, il marque de la tête, c'est superbe, Concarneau qui se qualifie sur ce deuxième but, et le gardien Grégory Edouard qui est particulièrement énervé, il a fait un geste, il a chambré tous les voltigeurs là, l'attaquant de Concarneau en arrêtant la balle au pied et en se permettant de l'arrêter juste avant la ligne et en la poussant de la tête, il est fou de rage.
Voilà, c'était Léo Rosé qui vous commentait ce but d'Herman Coré. Alors Christophe Marchand avec newswest.fr, tu l'as filmé ce but et là ça y est, le buzz est parti en l'espace de 48 heures.
Ouais, je trouve que c'est vraiment impressionnant parce que pour vous dire vrai, le but, je l'ai filmé, j'ai commencé à prendre le caméscope d'une main et je tapais en même temps comme on était très proche de la fin, donc j'ai essayé de faire le texte et la vidéo en même temps et je vois pas le début de l'action et je me fie aux spectateurs et avec le bruit des spectateurs, je déplace mon caméscope. Et c'est pour ça qu'il y a un temps de transition à un moment donné, je ne sais plus où du tout est la balle. Et j'entends une clameur et je reprends. Et c'est vrai que c'est... Après le buzz, j'ai envoyé cette vidéo en ligne sur la plateforme YouTube. Il devait être minuit et demi, une heure. Le lendemain, ça a été, ça a été un déluge. J'ai rien compris. Le premier temps, ça a été partagé avec Eurosport. Il y a l'équipe, il y a France TV. Enfin, tous les grands médias nationaux s'y sont mis. J'avais vu en me couchant qu'elle commençait à atteindre des sommets avec 100, 150 000 vues. Et j'avais vu qu'elle était partagée pas mal dans toute l'Europe. Je sais que le deuxième média portugais l'a repris. En Italie, ça a également repris. Et quand je me suis couché, j'ai vu que ça commençait à partir un peu partout, au Pérou, au Japon. Un site russe également l'a partagé. Et puis bon, là, on arrive à 500 000, je ne sais pas du tout où ça va s'arrêter.
Alors, Herman Coré, Richard, d'Alletonnier.fr, on le sait capable de ce genre de but.
Ouais, alors c'est vrai que c'est pas ça fait le buzz, hein, comme on dit, mais bon, je pense pas que au départ, il veuille... C'est prévu, quoi, hein. Donc ça c'est venu comme ça, sûrement. Bon, peut-être parce que Greg Douard a essayé de l'attraper un petit peu avant, je sais pas, peut-être
l'ancien
qu'il a voulu
de Concarneau aujourd'hui
se venger là-dessus, je sais pas. Après, chacun pensera ce qu'il veut, hein, du geste, mais bon, c'est vrai qu'après, ça a mis un peu le feu aux poudres et ça aurait pu avoir des conséquences néfastes pour le reste de la saison si les gars n'avaient pas tenu leur mère, quoi.
Alors bon, pour conclure, puisque Concarneau s'est quand même qualifié en gagnant 2-0, le tirage au sort, ce sera dans un petit peu moins d'une heure et on connaît le groupe dans lequel se retrouve l'US Concarnoise. Alors, le petit poussé du groupe, c'est le Blanc-Ménil, division honneur Île-de-France. Mais bon, la division d'honneur Île-de-France, on dit toujours que ça vaut, par certains endroits, dans certaines ligues, facilement la CFA. Deux clubs de Ligue 1, il y a quand même Lorient, il y a Nantes, il y a le Gazélec d'Ajaccio, il y a l'Olympique de Marseille, il y a le Stade Malherbe de Caen. Pas de Guingamp. Un Guingamp, cette année, ça va être pour la finale. Et pas de Stade Rennais non plus. Bon, Richard, pour conclure, une préférence? Un petit ou un gros dès les 32e?
C'est toujours savoir si pour les joueurs, je pense l'OM quoi, c'est hein, ça fait rêver. Après pour le public, l'OM à domicile, je pense que c'est pas bon parce que le terrain, enfin je sais pas, au moins qu'il n'y ait pas de droit, tu peux faire des dépassements toujours. Donc c'est sûr que l'OM ça fait rêver les joueurs essentiellement, le public. Est... Moi personnellement, j'aimerais bien encore les à jouer à domicile, mais pas spécialement l'OM.
Sachant qu'il y a encore, on va dire. Il y a encore Mantes, CFA, il y a le Stade Briochin, la Théarène, Grandville en CFA 2 également, plus une DH de la Réunion également. Merci beaucoup Richard.
Mal,
et puis on te retrouve dès à présent sur allerslestonniers.fr.
Ouais.
Et puis merci beaucoup également à Christophe Marchand. Qu'on te retrouve donc bien sûr sur newswest.fr. D'ailleurs, je crois que tu vas aller assister au tirage au sort avec les joueurs de l'US Concarnoise au Glénan, c'est un peu leur QG.
Eh oui.
Merci Thomas. Bonne soirée messieurs. Merci d'être intervenu dans cette émission. C'est Brest.
Salut.
Salut. Bonne Richard. Soirée. 18h50.
Ici, c'est Brest. Thomas Lavaux.
Et on va refermer cette émission avec un projet porté par deux joueurs amateurs et par trois étudiants de l'IUT de Brest. Il s'appelle les Amateuriales et ces trois étudiants vont nous le présenter. Il y a Johan Dussort. Bonsoir Johan.
Bonsoir.
Maxime Serraton.
Oui, c'est moi, bonsoir.
Bonsoir Maxime. Et donc Jocelyn Blunven qui est également avec nous.
Bonsoir.
Johan, pour commencer, qu'est-ce que c'est, en quelques mots, les Amateuriales? Comment vous pourriez nous présenter ça? C'est une sorte d'all-star game, entre guillemets, du football amateur dans le district Nord-Finistère, mais à des fins caritatives.
C'est ça. C'est un projet universitaire à la base qu'on a lancé donc avec notre IUT GVA. Et donc, on a lancé avec Mamadou Sakho et Jules Diatta.
Voilà, Mamadou Sakho qui est joueur amateur.
C'est ça, à Saint-Renan.
Également à Saint-Renan.
C'est ça.
Et également
Jules-François
Diatta qui, lui, joue à PLAB.
C'est ça, en CFA. Et donc, en fait, c'est parti d'une discussion. On avait à cœur de faire un projet pour promouvoir le foot amateur. Et on s'est dit, pourquoi pas lier ce projet-là avec notre association. Et donc, on a lié ça avec l'association Le Petit Geste qui fait la différence. Donc voilà, on a décidé de lancer le All-Star Game amateur. Ça se fait au basket, pourquoi pas au foot. Et puis pourquoi pas promouvoir un petit peu le foot amateur qui est souvent relégué au deuxième plan.
Donc de la division 1 district à la DSR ou DSE ?
DSE.
DSE, voilà. Vous appelez les entraîneurs, ils élisent le joueur du match, vous leur passez un texto. Et puis en fin de saison, les joueurs qui auront retenu à leur poste le plus de sélections, ils disputeront ce match-là. Et les frais que vous pourrez rencontrer donc seront reversés à une association, Le Petit Geste qui fait la différence. Comment, Maxime, est-ce qu'on peut présenter cette association, son but, ses missions?
Alors, ça commence principalement au Sénégal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une récolte assez régulièrement de matériel, que ce soit en temps scolaire que sportif.
Oui, ça peut être des maillots,
Ballons, des chaussettes, des chaussures, que sais-je.
Et qui ne sera plus forcément utilisé par les clubs ici, en fait.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que les centres qui ont été bâtis là-bas par Idrissa Gueye, donc qui est joueur à Aston Villa.
L'ancien joueur de Lille, ouais.
Exactement. Donc, tout ce matériel-là est destiné à ces pays qui sont actuellement en voie de développement. Et le matériel scolaire, du coup, aussi sert aux enfants qui, du coup, les plus démunis là-bas.
Alors, Jocelyn Blunven, on le disait, il y a aussi un aspect universitaire à tout ça, puisque vous êtes étudiant en IUT. À Brest, en quelle filière ?
Oui, on est étudiant en IUT GEA à Brest. Et donc ce projet...
Gestion et administration des...
Gestion des entreprises,
des administrations.
Des administrations. Et donc, ce projet a un énorme coefficient pour notre deuxième année. Et donc, on doit mener à bien ce projet afin de valider notre diplôme. Et donc, ce projet nous tient à cœur. Donc, c'est un réel plaisir de le mener à bien. Et donc, nous espérons avoir notre diplôme grâce à ce projet.
Alors, mettre en lumière les joueurs professionnels, ça se voit énormément. Mais mettre en lumière, Johan, les joueurs amateurs. Pourquoi les joueurs amateurs plus que, par exemple, les basketteurs? Vous êtes vous-même tous les trois joueurs?
C'est ça. On est Jocelyn et moi. On joue. Moi, je joue à Sarnan, il joue à Gouesnou. Maxime nous suit depuis déjà un moment. Et puis, pourquoi le foot? Parce qu'on est déjà très impliqués dedans. Parce que également Mamadou et Jules sont aussi très impliqués. On aime le foot, on vit le foot, donc on avait envie de faire ça. Et puis, ça se rapproche un peu de la Coupe de France en ce moment. Assez difficile pour Sarnan, mais bon, c'est un des rares moments de la saison dans lequel le foot amateur peut être mis en avant. Donc, on s'est dit pourquoi pas rajouter quelque chose. Et puis, vu les premiers retours qu'on en a, je pense qu'on a lancé ça au bon moment.
Voilà, justement, Maxime, est-ce que vous avez les retours ont été positifs de la part des entraîneurs? Ils sont coopératifs, ils vous répondent quand vous les appelez?
C'est la grande surprise qu'on a eue, notamment après l'avoir démarché ses coachs, toutes les réponses ont été positives. C'est-à-dire que, d'une part, les entraîneurs sont très enjoués de ce projet-là. Ils sont très fiers de pouvoir y participer et les seules réponses qu'on a eues, c'est pas forcément parce que ça c'est négatif, c'est juste parce que les entraîneurs n'ont pas répondu, comme notamment des clubs qui sont un peu plus reculés dans le Finistère Nord.
S'ils nous écoutent,
voilà, Skriniak,
par exemple.
Sans dénoncer bien sûr, hein, mais non, vraiment toutes les retombées sont positives de par les joueurs et de par les entraîneurs. Et c'est ce qui crée un engouement toujours plus croissant actuellement.
Alors bien sûr, cet engouement, on le suit, et l'évolution de notre projet, on le suit également bien sûr sur les réseaux sociaux.
Oui,
d'ailleurs, on mettra les liens sur vos pages, sur le site internet francebleu.fr, dès que cette émission sera terminée. Le All-Star Game en lui-même, Jocelyn, lui, il aura lieu au mois de mai, mais il y a quand même une première échéance à partir de ce week-end.
Oui, c'est vrai, on organise déjà un tournoi de FIFA à l'espace VIP au Stade Brestois.
Alors, deux jeux vidéo, bien sûr, voilà. Sur PS4.
Voilà, c'est ça. Afin de déjà faire une grosse publicité pour notre match de gala de fin d'année et donc d'informer les gens qui n'ont pas entendu parler et évidemment passer un très bon moment avec beaucoup de monde. Tout le monde est convié à l'espace VIP au Stade Brestois.
Donc voilà, le All-Star Game, le match, ce sera environ vers la fin mai, une fois que la saison sera terminée en fait. Et alors comment est-ce que vous allez faire pour cet All-Star Game? Parce que de la D1 à la DSE, ça fait quand même quelques niveaux, quelques divisions. D1, PH, DSR, DSE, ça fait 4 divisions. Vous allez faire un match par division ou comment est-ce que vous allez faire?
Alors, on n'a pas encore décidé de la manière dont on allait élire les joueurs, mais donc notre commanditaire principal, c'est le district. On travaille beaucoup avec eux et une fois la saison terminée, un petit peu avant, on se réunira de manière à créer deux équipes les plus homogènes possibles, de manière à présenter un match de gala, qui soit vraiment une fête plutôt qu'un match, sans réel combat. On veut vraiment une fête, donc on essaiera de mélanger les équipes de manière à obtenir deux équipes de niveau vraiment homogène. Et c'est plutôt une fête avant d'être un match de foot en lui-même.
Ouais, généralement les All-Star Games, que ce soit en basket, c'est plus le show en fait qu'un match en lui-même. Johan Dussort, Maxime Serraton, Jocelyn Blunven, merci beaucoup en tout cas d'être venu présenter ce projet, les Amateuriales, au micro de France Bleu Braille Zizel. Et donc on pourra retrouver les liens pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus et qui souhaiteraient pourquoi pas également vous aider sur le site francebleu.fr dès ce soir. Bonne soirée messieurs.
Merci.
Merci, bonne soirée.
Il va falloir aller réviser parce que je crois que vous êtes en partiel en plus en ce moment là.
C'est ça, exactement.
Ouais. Ça fait quand même des journées très chargées. Merci beaucoup et puis en tout cas bon courage à vous. Et on suivra bien sûr votre projet sur France Bleu Braille Zizel, 18h57.